Salut à tous, Jérémy Royot pour Scepticisme Scientifique et aujourd'hui je suis avec Flavien Bardet. Salut Flavien.
Salut.
Voilà, donc aujourd'hui on fait un épisode un petit peu particulier pour pas changer ces derniers temps. Donc Flavien nous a contacté avec une interview qu'il a réalisée de son côté et on a trouvé cette interview intéressante et on a pensé la publier en guise d'épisode. Et donc avant de passer cette interview, je vais faire une petite introduction avec Flavien pour qu'il puisse vous présenter un petit peu ce sujet et puis se présenter lui-même. Voilà, est-ce que tu peux dire un petit peu qui tu es pour les auditeurs?
Ouais, pas de souci. En fait, je suis étudiant en psychologie à l'UCL et voilà, je me suis toujours intéressé un petit peu à ces problématiques sur les croyances principalement ou sur d'autres sujets. Donc, j'ai décidé de faire un petit travail là-dessus et de contacter le CIAOSN, donc le Centre d'information et de prévention des sectes en Belgique, pour un petit peu voir le fonctionnement de l'établissement, quels étaient leurs rapports avec les sectes, comment ça se passait, etc.
Ok. Peut-être est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as connu le scepticisme ou le podcast?
Ouais, pas de souci. Moi j'ai des parents qui étaient toujours un petit peu dans un phénomène de croyance, justement. Ma mère croyait à l'astrologie, un petit peu tout ce qui est feng shui, magnétiseur, etc. Je me souviens que moi ça me posait question, justement, à l'adolescence. Je me suis dit, tiens, mais c'est marrant, ces croyances, qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Au fur et à mesure de mes études, j'ai fait un bac scientifique en France. J'ai pu développer un petit peu mon sens critique. Et c'est à partir du moment où j'ai découvert les documents de l'université de Nice sur le zététisme que je suis vraiment rentré là-dedans, en fait.
D'accord. Ok, donc c'est via Henri Brock alors.
C'est ça.
Ok. Super. Ok. Donc tu peux donc la personne que tu as interviewée, donc c'est donc une des personnes qui travaille là-bas. Et est-ce que tu sais qu'est-ce que globalement sa position, la formation, c'était.
Donc, c'est Madame Sandrine Matène qui est psychologue.
Ok.
Son travail principalement, c'est d'informer les proches des personnes qui sont au sein d'une secte. C'est vraiment un travail, on va dire, pour rassurer les personnes, pour essayer de voir ce qu'on peut faire, en fait, et surtout, voilà, pour donner des informations. Parce que les gens ont souvent des proches qui sont dans des mouvements, mais ils ne savent pas vraiment ce que c'est, ils ne savent pas en quoi ça consiste, ils ne savent pas si c'est dangereux ou non. Donc, c'est un peu le rôle du CIAOSN. De capter ces informations et d'effectuer un bilan avec soit la personne elle-même, soit avec l'entourage.
Ok. Super. Alors donc, je précise pour les auditeurs, donc je mettrai les liens de ce service, peut-être un ou deux articles de référence sur la page du balado. Donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà. Pour la suite, donc je vous passe cette interview pour le reste de l'épisode.
Et donc j'ai fait une licence en psychologie,
Ok.
Louvain la Neuve.
Ok, d'accord.
Orientation psychologie clinique, comme la majorité des étudiantes.
Ok.
Et j'étais intriguée par l'adhésion de personnes à ces groupes sectaires. Donc je voulais comprendre comment ça se passait, comment le
D'accord. Donc ça a été
processus.
directement une rotation qui s'est faite dès les études, en fait.
Oui, mais
D'accord.
par hasard.
Ok.
Je veux dire. Est-ce qu'on est passé en vacances à côté du Mandarome, qui est un groupe installé dans les Alpes de Haute-Provence et qui est assez caricatural. Et est-ce que c'est ça ou autre chose? Où je me suis dit, tiens, comment se fait-il que des gens, éventuellement avec une formation scientifique,
Ouais.
entrent dans un groupe comme ça?
D'accord.
Et donc j'ai proposé ce sujet-là de mémoire. À l'époque, c'était par le professeur Jaspard, maintenant il est émérite, en psychologie de la religion. Et donc j'ai fait un mémoire sur les techniques de manipulation mentale dans les sectes dites
D'accord.
dangereuses.
Très bien.
Donc c'est essayer de décortiquer toutes les techniques, la mécanique, les processus qui font qu'une personne lambda
Ouais.
ou éventuellement fragilisée est séduite par une offre et puis
Ouais.
petit à petit entre dans un groupe et puis il reste quoi.
Votre master est toujours à la bibliothèque de l'UCL.
Mon mémoire?
Ouais.
Oui,
Ok, pour voir
oui.
si je peux aller le consulter éventuellement.
Certainement. À mon nom, bien sûr. Et voilà. Et ensuite, J'ai travaillé 2 ans dans un autre secteur, mais très vite j'ai entendu parler de la création d'un centre comme celui-ci.
D'accord.
Et donc là, je me suis fait connaître comme intéressée, comme candidate pour travailler ici.
D'accord.
Et après, il y a eu la procédure de sélection et j'ai été retenue. Et donc j'ai commencé à travailler ici en juillet 2000, c'est-à-dire au début de l'activité du
Ah
centre.
oui, donc c'est un centre qui est assez récent finalement.
Oui, relativement récent, un peu plus de 15 ans, mais donc j'ai commencé à la création du centre.
D'accord, très
Voilà.
bien. Du coup, ça rejoint un petit peu ma deuxième question, qui est c'est quoi en fait l'émission du CIAOSN?
Oui, du CIAOSN.
D'accord.
Parfois on m'avait dit Ciao SN, j'avais trouvé ça vraiment drôle. Mais c'est vrai que c'est un nom un peu compliqué. Au départ, dans la commission d'enquête parlementaire qui a décidé de notre création, il parlait d'observatoire des sectes. Et c'est vrai que dans la presse, souvent, on parle comme ça de nous, parce que CIAOSN, c'est un peu
Un peu barbare, on
difficile.
va dire.
L'émission principale sont au nombre de deux. La première, c'est l'information, centre d'information du grand public, des autorités, de quiconque demande. Et la deuxième mission principale et unique, c'est la vie. Et donc la différence, c'est que dans le cadre de la vie, le centre, les membres du centre, donc moi je ne suis pas membre, je suis fonctionnaire, justice d'ailleurs, du service permanent, si vous voulez. Et au-dessus, il y a une sorte de conseil, une réunion, un conseil des membres. Et eux, alors, se positionnent, ils prennent une position par rapport à un groupe, ils vont dire, on estime qu'il n'y a pas de problème, mais il y a un petit bémol par rapport au rapport homme-femme, ou bien non, là, il y a un gros problème, il y a une dangerosité par rapport aux enfants. Donc, il y a une prise de position. Tandis que la mission principale et celle qui nous occupe le plus, la mission d'information, c'est plutôt de bien choisir ces informations, qu'elles soient pertinentes, qu'elles soient fiables, qu'elles soient recoupées, qu'elles soient. Et ensuite, on envoie ça au demandeur qui, grâce à cette information de qualité, peut se faire son opinion. Mais on ne va pas donner des avis à tout le monde, ce serait ingérable, parce que la vie est un travail très très conséquent en fait, réservé aux autorités.
Et il y a combien de demandes, entre guillemets, par mois, en fait, de personnes en particulier?
Faut que je réfléchisse, parce qu'évidemment, c'est le directeur qui a les chiffres en tête comme ça. Et donc c'est des centaines, hein, par an. Est-ce que c'est 700 par an, un truc comme ça, à la louche?
C'est beaucoup plus des particuliers ou finalement des ASBL qui demandent
Beaucoup de particuliers, beaucoup des proches, énormément de la famille ou des amis qui sont inquiets. C'est surtout ça. Et puis un petit peu de la police aussi, qui nous demande des synthèses ou des infos. Quelques structures ASBL, oui. Par exemple, service d'aide à la jeunesse ou une maison qui s'occupe de placer des enfants. Enfin oui, il y a quelques structures comme ça, plus dans le monde social, qui nous appellent. Mais la grande majorité, ce sont les familles et les proches.
Très bien. Comment est-ce que vous interagissez en fait avec les différents mouvements religieux en Belgique, justement?
Mais disons qu'en Belgique, on parle de culte reconnu. Et donc, ils sont au nombre de 7 ou de 8. Église catholique, les anglicans, les protestants, les musulmans, etc. La laïcité aussi, le bouddhisme est en cours, l'hindouisme a fait sa demande. Donc ça, c'est ceux qui sont reconnus par l'État comme étant un culte. Et donc, ça a des conséquences enfin, financières, en fait, d'aide de l'État par
Donc
rapport
l'État
à.
subventionne les cultes en Belgique, en fait.
Oui, en partie. En partie, pas beaucoup, mais en partie. Donc, mais alors, pour le détail, il vaut mieux demander à une autre entité que nous, parce qu'on n'est pas spécialisé dans le financement des cultes, hein, mais c'est juste pour expliquer un peu le cas. Et donc, il peut nous arriver, et ça a déjà été le cas, d'être en contact avec l'Église catholique ou avec les protestants, par exemple, et les bouddhistes aussi, parce qu'on a eu une demande sur un dossier, une organisation qui entre dans leur église, quoi, leur mouvement, et qu'on a envie d'avoir soit plus d'informations, soit d'avoir un échange avec eux pour chercher des solutions, parce qu'on a identifié un risque pour la population, et donc il faut échanger par rapport à ce risque et essayer de voir s'il y a moyen de notre côté, de leur côté, ensemble, ou via le législateur, s'il faut renforcer les lois, de protéger davantage les personnes, quoi.
Et donc, quelle serait la différence principale entre une secte et un mouvement reconnu en Belgique?
De notre point de vue, en fait, on se soucie pas tellement de cette différence parce que chacun a un petit peu son approche de travail. Donc, je sais bien qu'il y en a qui réfléchissent et qui disent qu'une secte est une religion qui a... Non, une religion est une secte qui a réussi ce genre de choses. On peut faire des études et des recherches en prenant le dictionnaire et puis dire, ben voilà, secte, ça vient du latin, c'est cuit, c'est carré, donc suivre, se couper, ça. Religion, c'est bien de religarer, rassembler. On peut faire des études comme ça, étymologiques. Nous, en fait, on passe pas tellement notre temps. Bien sûr, on observe ce genre de réflexion, mais notre travail, c'est de voir si, un, on est face à une organisation, qu'elle soit considérée comme secte ou comme religion ou culte reconnu, peu importe. Un, on a une organisation, ça veut dire pas un individu isolé. Si on nous appelle pour un voyant ou quoi, on ne répond pas sur ce voyant-là, on n'a pas de fiche personnelle. Deux, est-ce que c'est une vocation grosso modo religieuse ou spirituelle ou prétendue telle? Et donc, si c'est une organisation de l'Église catholique, bah, c'est le même tarif, quoi. Hein. Ils seront aussi étudiés de la même
Oui, il n'y
façon.
a pas de discrimination par
Non.
rapport au mouvement.
Non, mais même il fera partie d'un culte reconnu, rien à faire. On entre... Et puis après, on voit s'il y a des nuisances, donc des dommages possibles pour l'individu ou pour la société. C'est plutôt en général pour l'individu et
Et comment vous
ses
faites pour évaluer
proches.
ça? Vous faites des investigations au cœur de la secte? Vous demandez des renseignements? Comment ça se passe?
On travaille sur des sources publiques et ouvertes. Hein. C'est pas un service de police ici et c'est pas un service de sûreté de l'État. Donc, on n'a pas accès à des documents confidentiels ou au registre national ou au casier judiciaire. On n'a pas, on fait pas d'infiltration. Donc, tout ce que nous utilisons, pardon, sont des sources ouvertes. Ça veut dire les livres qui sont ici, il y en a beaucoup. Dans le centre de documentation, on a aussi des tracts éventuellement des mouvements, des livres des mouvements quand c'est possible. Et après, c'est une recherche documentaire via Internet qui donne accès au site Internet, au moniteur belge pour les statuts des organisations. Donc ça va vraiment dans tous les sens, pourvu que ça reste des sources publiques.
Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans le cas où on a, on va dire, un nouveau mouvement qui se crée
Oui,
et où il n'y a pas de documentation dessus, en fait? Comment vous
absolument.
faites?
Absolument. À ce moment-là, on ne prend même pas le temps de chercher dans les livres. On sait qu'il n'y aura rien puisque ça vient de se créer. Donc, ou bien parfois c'est tellement minuscule qu'on sait bien qu'il n'y a rien à trouver ici, si ce n'est une documentation plus générale qui éclaire le contexte. Par exemple, si le groupe dit qu'il est dans le New Age, bah, on a plein de bouquins sur le New Age, donc ça éclaire sur le cadre de référence, quoi. Mais si on a besoin d'infos sur le mouvement, et c'est toujours le cas, ça va passer par une recherche internet, parce qu'il y a souvent un site internet ou une page Facebook, éventuellement des statuts s'ils les ont déposés et qu'ils ont une ASBL formelle. Là, on aura aussi les administrateurs, le siège. Voilà
Mais
comment on va
ça
faire,
reste
quoi.
difficile de postuler la dangerosité d'un nouveau mouvement si justement il n'y a pas d'information et que
Oui.
personne n'en parle.
Ah, s'il n'y a pas d'infos, personne n'en parle. On n'a aucun élément, malheureusement, pour aller éventuellement dans le sens du témoignage qu'on a reçu. Maintenant, si le témoignage est vraiment inquiétant, on va aussi conseiller à la personne d'aller directement à la police, hein, déposer plainte ou bien signaler simplement. Et alors, la police fera ce qu'elle peut
Ah,
faire
donc vous
avec
n'êtes pas
d'autres
directement en
moyens.
relation justement avec la police ou autre, c'est la
Si,
personne,
nous
si.
sommes aussi en relation, mais c'est différent. Nous, si on étudie un dossier et qu'on voit qu'il y a un problème par rapport à la santé ou par rapport aux enfants, nous devons faire le relais vis-à-vis de la police ou vis-à-vis de la sûreté. Mais ces derniers temps, elle a beaucoup d'autres choses à faire. Voilà, avec le terrorisme et ça, voilà. Donc on va faire le relais et on se le doit en tant que fonctionnaire, ça fait même partie de nos obligations. Mais nous ne portons pas plainte, nous n'avons pas la personnalité juridique, ça veut dire qu'on ne peut pas porter plainte. Si nous portons plainte, en fait, c'est l'État directement. Donc là, c'est la personne pour bien faire et dans les cas sérieux qui doit porter plainte, sinon la machine judiciaire ne se mettra pas en route. La machine judiciaire peut se mettre en route d'elle-même, mais elle ne le fera pas tellement ils sont débordés par tout ce qu'ils ont déjà à faire. Donc ça peut être un incident, mais il faut qu'il y ait quelque chose de très sérieux qui a été signalé, quoi. Maintenant, si on ne trouve pas d'informations, là, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est dire à la personne d'aller porter plainte en lui indiquant, parce qu'on a quand même un service juridique aussi, quelles plaintes peuvent être recevables. Il y a l'abus de situation de faiblesse qui est sorti en fin 2011, qui est intéressant aussi à faire valoir quand...
C'est-à-dire, ça consiste en quoi?
Mais ça consiste à dire que la personne va se plaindre et dit voilà, moi je suis victime d'un gourou, entre guillemets, je dis entre guillemets parce que la terminologie, on peut encore en discuter,
Ouais.
d'un gourou qui, sachant bien que j'étais faible parce que j'étais endeuillée, par exemple, a profité de ma faiblesse à ce moment-là, en connaissance de cause, pour prendre mon argent ou prendre possession de mon corps, parce qu'il y a un des abus
Ouais.
sexuels, il y en a aussi. Et donc, en montrant tous ces éléments-là, le parquet pourrait poursuivre le gourou pour abus de situation de faiblesse. Et puis après, pour escroquerie, pour exercice illégal de médecine, pour non-assistance à personne en danger, etc.
Ok, et est-ce que les tiers vont porter plainte pour la
Les?
personne? Est-ce que les proches vont porter plainte pour le tiers ou dans ce cas-là, ou c'est vraiment à la personne elle-même de le faire?
La personne elle-même, c'est pas souvent. Souvent, nous recevons les proches, hein, donc
Ouais.
c'est plutôt eux qui vont aller vers la police signaler une inquiétude et qui pourraient parler d'abus de situation de faiblesse, etc. À mon avis, c'est recevable.
Ok.
Je ne suis pas juriste, comme je l'ai dit au début, donc il
Pas de
faudrait
soucis.
vérifier. Si c'est la personne elle-même, c'est encore mieux.
Oui.
Mais dans nos dossiers, c'est quand même souvent les proches qui sont inquiets et la personne qui ne veut pas voir
Ouais.
ou qui n'est plus capable et qui porte peu plainte. Ou alors après, oui, ça c'est possible, après.
D'accord, très bien.
Parfois trop tard.
Est-ce qu'il existe pour vous une population à risque? Et si oui, quelle est-elle?
Oui, je pense, même si je sais que ce n'est pas le discours que tout le monde tient, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de profil. Je pense qu'il y a quand même un profil, c'est celui d'une personne qui est fragilisée. Alors en ce sens-là, c'est personne et c'est tout le monde. Ça veut dire que tout le monde peut, à un moment donné de sa vie, traverser un moment difficile, un deuil, perdre son boulot, voilà, vraiment ne pas être bien. Et donc à ce titre-là, tout le monde, en effet, est potentiellement à risque. Mais donc je crois que c'est quand même plus ceux qui sont fragilisés psychologiquement ou qui sont en recherche
Ouais.
spirituelle et qui donc sont un petit peu en manque de repères, quoi, hein. Je dirais ces deux profils-là qui me viennent comme ça à chaud sont plus susceptibles de répondre à des offres dont il y a beaucoup de bonnes offres, mais là-dedans il peut se cacher aussi des offres qui sont perverties
D'accord.
et là on est embarqué, quoi. Donc certains disent il n'y a pas de profil type, ça veut dire il n'y a pas un profil psychologique de type psychopathe, pas psychopathe, mais par exemple tous les dépressifs, quoique ça pourrait se discuter,
Ça pourrait être
oui,
un
ou tous
argument de faiblesse, ouais.
les profils de type A, j'invente,
Ouais.
non, ça c'est exact. Par contre les fragiles, ça me paraît être le premier profil. Et tout le monde peut l'être. Maintenant, il y en a certains qui sont sans doute plus fragiles à la
Ouais.
base. Comme ça, je disais, les dépressifs, ce n'était pas le bon exemple, parce que je pense que les dépressifs sont plus fragiles dès le départ et donc plus susceptibles de rencontrer, enfin, plus à risque de rencontrer une offre qui n'est pas la bonne, quoi.
J'avais vu aussi qu'il y avait des corrélations entre les personnes ayant tendance à croire au paranormal et les
Oui.
personnes ayant tendance à entrer en religion, en fait.
Oui, mais donc ça c'est dans l'étude de l'UCL, hein, vous avez
Ouais.
peut-être vu, et c'est celle auquel je pense, le mouvement religieux controversé, qui faisait peut-être bien une corrélation entre ces croyances-là. Oui, mais c'est vrai que s'ils sont plus attirés vers des croyances paranormales, ils vont sans doute ne pas réfuter des croyances de manière générale, à l'inverse des non-croyants. Et donc, oui, s'il y a une offre spirituelle ou religieuse, ils vont pas la rejeter comme un athée le ferait. Maintenant, toutes les offres ne sont pas forcément religieuses ou spirituelles, quoi. Ça peut être aussi dans d'autres domaines qui ne sont pas dans le domaine des croyances, mais qui sont dans le domaine du développement personnel ou du bien-être. Et donc, on est dans autre chose, les théories du complot. Enfin, il y a aussi tout un autre panel. Et
C'est
il
vrai
y en a
ça.
pour tout le monde.
Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène de résurgence justement des religions à partir des années 50, en fait, le fait que toutes les nouvelles religions aient un peu explosé. Je pensais à la scientologie, je pensais au mouvement raëlien en France ou des choses comme ça. Comment ça se fait qu'il y ait un engouement à ce point-là?
Un engouement. Je ne sais pas, on sait que les grandes églises sont affaiblies, hein, sont quand même relativement désertées. Or, une bonne partie de la population a besoin de religieux, de se retrouver, de partager des croyances. Donc le besoin de religion, il est toujours là, mais ils ne sont pas manifestement, ou de moins en moins, satisfaits par l'offre classique, et donc ils vont chercher ailleurs. Alors est-ce que c'est ça? Sans doute en partie, oui. Raël, c'est un peu différent, c'est né en 73, un petit peu dans la mouvance de mai 68 et des extraterrestres, donc il y a tout ça. Il passe à la télé, il dit qu'il a fait une rencontre avec les extraterrestres et il connaît un succès dingue. Et donc là, lui, il a profité d'un climat particulier qui suit mai 68, Peace and Love et enfin, tout ce qu'il y avait avec, et notamment l'intérêt pour les extraterrestres. La scientologie, ben, ça part quand même d'un écrivain de science-fiction hein,
Ça, je sais bien,
qui a cherché à avoir du succès, qui a eu un relatif succès, c'est vrai, dans l'écriture de ses nouvelles et autres romans, et qui après a développé un cercle ésotérique. Mais alors, c'est aux États-Unis, donc c'est vrai que la situation aux États-Unis et en Europe n'est pas tout à fait la même non plus, donc il faudrait avoir déjà à relativiser. Disons que le premier facteur qui nous vient comme ça à l'esprit, mais de nouveau, nous, on est dans une pratique de terrain, comme j'ai dit, hein, on reçoit beaucoup de demandes et on regarde, on étudie pour voir quels sont les risques. Donc en fait, on a moins c'est moins notre objectif de réfléchir comme les sociologues le font ou les académiciens sur ces raisons-là. Mais en tout cas, il me semble que le premier facteur, c'est quand même ce besoin de croire qui est toujours là, mais qui n'est pas satisfait dans les églises classiques, et donc ben, ils trouvent ailleurs où ils forment une série de mini-groupes. Ça, il y en a tout plein, des groupes d'une dizaine de personnes. Il y en a à l'appel, et là, le problème, c'est de voir comment la dynamique de groupe va évoluer. Vous avez fait une licence en psycho, donc vous voyez un petit peu de quoi je parle, et comment elle va évoluer, comment le meneur va prendre sa place là, est-ce qu'il va profiter. Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Ça résume vraiment bien les risques d'un meneur qui peut à un moment donné être flatté du pouvoir qu'il sent naître sur le groupe et après en abuser. Ça coûte autre chose.
Quel est votre point de vue sur la religion en général? C'est peut-être une question un peu difficile, mais si
Oui,
jamais
parce
vous savez
que en
y
fait, le
répondre.
CRSN n'a pas de point de vue sur la religion. Donc, si je ne comprends pas très bien la question, avec la casquette du centre. Il n'y a pas de point de vue, nous n'avons ni avis ni opinion par rapport à telle ou telle religion. En fait, ça rejoint en fait la réponse que j'ai donnée tout à l'heure de notre façon de travailler. Tout ce qui nous importe, c'est de voir si, un, il y a une organisation, deux, si elle est vaguement religieuse, spirituelle, et trois, si elle est nuisible. Mais on n'a pas d'opinion. On ne dit pas, par exemple, le CESN ne s'est pas positionné par rapport à la religion en général, sûrement pas, ou l'Église catholique, ou parce que ça n'a jamais été nécessaire. Ça pourrait, hein, mais non, on a fait les Mormons, on a fait les Témoins de Jéhovah, les Bahaïs, Sahaja Yoga et encore deux, trois autres. Mais c'est plutôt, ben, on répond à des questions plus que qu'autre chose. Mais non, je ne vois pas très bien comment répondre
Non, mais
clairement.
non, je pense que c'est déjà assez clair, justement. Donc, il n'y a pas un point de vue.
Anti ou pro,
Voilà,
est-ce
c'est
qu'on serait
ça.
des laïcs ou ce genre de choses? Non, pas du tout. D'ailleurs, le conseil d'administration, c'est ça qui est. Enfin, c'est comme ça que je l'appelle, mais c'est comme ça que nous l'appelons. Mais enfin, c'est donc les membres dont je parlais qui se réunissent plus ou moins une fois par mois. C'est intéressant parce qu'ils représentent la Belgique. Donc, ils représentent les Wallons, les francophones et les Flamands. Et tous les partis politiques qui siègent donc à la Chambre des représentants. Donc c'est très démocratique. Et là-dedans, on retrouve donc des gens, je sais pas moi, de l'UCL, il y en a, des gens de l'ULB, de toutes les confessions, entre guillemets, éventuellement, parce qu'il n'est pas dit qu'un prof d'UCL est forcément calotin, comme on dit, ou religieux, hein, mais toutes les tendances, je pense, sont représentées. Et donc il n'y a pas ici un discours athée, anti ou quoi, ou pro. Non, c'est vraiment très très multi quoi.
Très bien, ça marche. Et d'un point de vue personnel, est-ce que c'est difficile pour vous de concilier ce métier que vous faites là avec une foi personnelle? Je ne sais pas si vous êtes croyante ou pas, mais est-ce que ça vous paraît très difficile, justement?
Non, parce que comme je le dis, enfin, c'est un travail qui est bien balisé par la loi et les compétences. Et la première chose, c'est de voir si on est face à une organisation. Ben, on regarde au moniteur, on regarde le site internet. Donc tout ça, c'est du travail plus d'études et documentaires. Et la vocation, donc on regarde grosso modo si on est dans notre cadre. Ça veut dire que si on a une demande sur quelque chose qui est très à vocation humanitaire pure ou politique, c'est pas pour nous. C'est ça, hein. Après, au niveau des nuisances ou des dommages, non, on n'a pas une approche de ça en termes de c'est bien de croire ça, c'est pas bien de croire ça. L'approche, elle est juridique. Donc, c'est une grille de lecture de risques potentiels qui pourraient amener à des infractions. Donc, en fait, ce sont les lois de la Constitution belge, les droits de l'homme qui nous guident. Pas du tout des convictions ou des croyances. Donc qu'on soit athée ou religieux ici, enfin je dirais pratiquant traditionnel, ça ne change à mon sens rien dans le travail puisqu'il est balisé de telle sorte que les convictions personnelles n'entrent pas en ligne de compte. C'est vraiment les lois. Donc c'est très criminologique au fond.
Ça marche. Est-ce que vous pouvez me parler du procès de la scientologie en Belgique? J'ai vu que ça avait été résolu assez récemment, donc j'aimerais bien avoir un peu plus de détails justement
Je
sur
ne peux
ce.
donner que des informations parce que c'est un. Et là, il faudrait s'en référer à ce que le CRSC n'a pas indiqué à ce sujet. Et le CRSC n'a pas. Donc, au niveau des infos, ben, on a le jugement donc, qui est tombé le 11 mars et qui a estimé que les poursuites étaient irrecevables. Donc, ça ne veut pas dire que le tribunal estime que l'Église de la Scientologie est innocente ou est blanchie, etc. Ça veut juste dire que juridiquement, il estime qu'il ne peut pas recevoir les poursuites qui étaient intentées. C'est tout ce que ça veut dire. Maintenant, on va. Donc le CEC n'a pas émis d'avis ou d'opinion à ce sujet-là, donc j'en reste aux informations brutes. Et maintenant, la question est de voir si le parquet va aller en appel de cette décision. S'il va en appel, alors on rebat les cartes. Tout le tribunal change, donc on aura un nouveau président, de nouveaux magistrats, un nouveau procureur, enfin des autres personnes, et ils vont juger une deuxième fois. Mais ça, on ne sait pas du tout. On apprendra par la presse aussi, sans doute, comme les autres. Parce qu'il y a beaucoup d'informations que nous apprenons aussi par la presse, en fait. On n'a pas de lien particulier. Enfin, confidentiel comme ça. On peut imaginer, et en fait, non, nous apprenons beaucoup de choses comme le grand public
Pas de soucis, ça
par
marche.
la presse.
Est-ce que vous avez fait un travail particulier, justement, par rapport aux événements récents, par rapport
Au
au...
terrorisme?
Ouais, c'est
Oui,
ça.
absolument. Dans le rapport bisannuel, vous pouvez le prendre, je vais vous le donner. Il est là. En irlandais pour l'exercice?
Moi, pas trop, non. Je préfère éviter.
Donc on a fait ce qu'on a appelé un focus justement, ben voilà, il est page 18 pour justement nous remettre, nous positionner par rapport à ce mouvement, enfin ce phénomène, ce problème-là. Et en gros, ça disait que nous avons une expertise de plus de 15 ans maintenant de l'accueil des victimes, de l'écoute, de l'orientation, du conseil. Et donc, à ce titre-là, on peut aussi s'occuper, enfin, faire la même chose avec des personnes qui se diraient victimes de terrorisme, quoi. Mais la finalité des groupes terroristes, l'État islamique pour le moment, ou Daesh, on va assimiler Daesh pour le moment, ou Sharia for Belgium hier et demain, qui sait, ce sont des finalités politiques pures, de conquête de territoire, etc. Et donc là, on n'est pas dans notre cadre de compétences. Donc au niveau des finalités, on n'est pas dans le cadre qui définit notre travail. Toutefois, je ne sais plus si c'est dans le texte, moi je pense qu'il y a des processus d'emprise des personnes qui sont similaires dans le phénomène sectaire ou dans la radicalisation violente. Et donc je pense qu'il y a une expertise à partager aussi. Je crois qu'on doit, nous devons être, et nous sommes déjà interlocuteurs dans ce genre de réunions ou avec des spécialistes en terrorisme, nous pouvons amener aussi notre expertise et expliquer ce que nous observons dans le phénomène sectaire, dans l'emprise, les dynamiques de groupe, qui sont des phénomènes qu'on retrouve en psychologie sociale, hein, qui sont similaires à ce qui se retrouve dans la création des réseaux, quoi, par exemple, hein. Donc ça c'est mon point de vue. Je ne sais pas s'il est repris ici dedans. Je vais vite regarder. ça dépasse les critères classiques de dangerosité. Alors, oui, donc il est mis que la caractéristique du djihadisme auquel il fait référence dans le contexte actuel est qu'il dépasse les critères classiques de dangerosité d'organisation sectaire nuisible, oui. Dans les groupes que nous étudions, c'est rare qu'on en vienne à des choses comme ça. Ça a été le cas. Hein. La secte Aum, comme on l'appelle, au Japon, a fait un attentat au
Ah
Gare
oui,
Saint-Rein
ouais, dans
dans
le
le
métro, oui,
métro.
effectivement.
Donc, ça, c'est une exception. Bien sûr, l'Ordre du Temple solaire a aussi tué
En
presque
France,
80 personnes en
ouais.
France, d'abord en Suisse, en France, et puis un petit peu au Canada. Il y a quelques exceptions, mais c'est vrai que majoritairement, on n'en vient jamais à des attentats comme nous venons de connaître, ce 22 mars, entre autres. Ceci dit, je trouve qu'il faut. C'est bien sûr sans équivalent, mais là, et vous êtes bien placé pour me comprendre quand je dis qu'on ne fait pas assez attention aussi aux blessures psychologiques de tous ces gens dont nous nous occupons et qui sont encore en vie, mais dans quel état? Ça, c'est bon, mais c'est évidemment, ils sont toujours là pour en parler. Et c'est une grosse différence, quoi, par rapport à ceux qui sont morts. Donc, je continue vite la lecture. Et donc, c'est peut-être dans les propositions, page 19. Voilà, accueillir les parents, ça je l'ai dit. Service juridique, oui, bien sûr, peut informer les demandeurs sur leurs droits et obligations. Donc, ça, c'est du travail classique qu'on peut aussi fournir à des parents de jeunes qui sont partis ou demande d'inf. Alors, le service répond aux demandes d'information dans ce cadre, dont question, et dans les affaires d'embrigadement, manipulation ou d'abus, y compris aux demandes de la presse. Ça, c'est ce que je. Enfin, voilà, c'est dedans. C'est ce que je voulais dire. Donc, on peut aussi éclairer sur les mécanismes d'embrigadement,
Ok.
de séduction, de manipulation, enfin, on appelle ça comme on veut. Après, on peut nuancer. Là-dessus, pour moi, c'est assez similaire.
Ok. Et donc vous avez fait des
Voilà.
communiqués par rapport à la presse à ce niveau-là?
Via le rapport bisannuel.
Ouais.
Donc il y a déjà quelques mois qu'il est sorti. Classiquement, on fait connaître notre rapport. Et donc ça, il y a eu quelques articles à cette occasion-là.
Ok.
La presse s'est assez bien intéressée au fond, un petit peu à ça, mais surtout à la santé, aux problèmes de
Ok.
santé, au dérapage en matière de santé. Voilà, et après on a été sollicité quelques fois par des autorités régionales ou fédérales pour prendre part à des journées de réflexion sur le terrorisme et on est présent, on répond à chaque fois présent dans le cadre de nos compétences, mais je crois que c'est nécessaire. C'est intéressant d'avoir plusieurs approches aussi. Notre approche est différente. Nous ne travaillons pas sur les groupes terroristes, mais comme je l'ai expliqué, nous travaillons sur des mécanismes ou des processus assez similaires et donc c'est intéressant pour eux d'entendre un autre point de
Point de
vue,
vue, ouais.
mais qui pourra aussi les enrichir dans leur travail, quoi.
D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter en fait un point de vue que vous aimeriez un peu plus expliquer par rapport à l'interview?
Bon, on a peu parlé de la santé cette
Ah oui,
fois-ci.
bah allons-y. Pourquoi
D'habitude,
pas?
c'est un sujet. Mais d'ailleurs, il y a un des clients nouveaux qui est peut-être pas là, non.
D'accord.
Il est en Irlandais, je vois, mais enfin, on en a encore. Où là, c'est un sujet qui est quand même fort, fort présent.
Ouais. Et donc vous entendez quoi par santé en fait?
Santé mentale, physique,
Ouais.
les deux. Et même le bien-être en général. Donc, c'est des pratiques de bien-être, comme par exemple, on est interrogé sur des gens qui se réunissent pour danser de manière instinctive, ou ça, c'est pas problématique. Mais c'est pour donner un exemple. Oui, on est quand même souvent, souvent confronté à des problèmes de santé de personnes qui sont détournées de la médecine classique.
OK.
Ce matin encore, on entend une personne dont le discours commence à dévier vers la médecine, je veux dire, non conventionnelle.
Ouais.
Alors, c'est pas un problème quand elle reste complémentaire et donc je crois qu'il faut vraiment ne pas passer à côté de ce que la médecine classique peut offrir, la médecine
Vous avez peut-être
académique.
entendu parler justement du cas d'un enfant américain qui est mort d'une méningite parce que ses parents l'avaient traité avec des remèdes soi-disant naturels en fait. Je sais pas si
Oui,
ça
il y en
te
avait
dirait
un
quelque
autre
chose.
avec la prière ou la guérison. Donc,
Ouais.
mais oui, ça c'est le genre de conviction fatale. C'est ça qui. Et ici, ce matin, bon, ça c'était pas encore à ce point-là, mais la fille de la personne commence à dire qu'elle ne croit plus en la médecine classique. Donc déjà dire ça, évidemment, ça m'interpelle parce
Ouais, ça
qu'il ne
pose
s'agit
question,
pas
effectivement.
de croire. La science est la science, la croyance est autre chose. Donc déjà, on bascule dans. Ce sont des croyances. Alors tant que la médecine classique est suivie et qu'on fait de la médecine complémentaire en complément, très bien. Mais quand la médecine complémentaire ou la pratique alternative devient exclusive et rejette la médecine classique, eh bien on arrive à des décès. Et donc il y a un procès qui va s'ouvrir, on est en 2016, peut-être l'année prochaine, on verra la justice un autre temps que le nôtre. Et dans ce cas-là, une femme est morte d'un cancer du sein qui était totalement guérissable, mais n'a pas été traitée, a refusé d'ailleurs les traitements classiques, a préféré un pendule, et puis des histoires des méthodes naturelles aussi, a souffert énormément et en est morte. Donc ça, c'est le genre de demande qu'on a quand même de temps en temps et qui nous a fait écrire un dépliant quoi, pour attirer l'attention, mais c'est pas évident, hein, parce que quand on commence à être croyant, à avoir des convictions en matière de. Enfin, des convictions comme ça, parce que c'est ça, dans le domaine de la santé, et qu'on s'éloigne de la science, qu'on commence à la diaboliser, qu'on diabolise la pharmacie. Et c'est vrai qu'il y a des zones d'ombre dans la pharmacie, qui est au fond un commerce, hein, etc. Enfin, il y a plein de choses qui sont tout à fait. Pas qu'on peut comprendre, mais nous avons affaire aux extrémistes, en fait, qui après imagine des théories du complot entre les firmes pharmaceutiques et le gouvernement, et puis avec l'OMS, qui est le bras médical de l'ONU, qui est aux mains de quelques familles qui veulent contrôler la planète, et qui donc créent des virus pour exterminer une partie de la planète. Et alors on est parti, quoi. Et ce sont les théories du complot qui ont quand même un impact parce que, indirectement, elle génère des peurs dans la population par rapport aux vaccins, par exemple. Et donc, les vaccins commencent à faire peur à une partie. Et donc, on voit un recul un petit peu du taux de vaccination. Donc là, ça a un impact sur la santé publique.
C'est ça.
Donc ça, ce sont des sujets qui reviennent souvent en Belgique, en France, et qui sont plus de l'ordre convictionnel que thérapeutique pur, en fait. Parce que quand on commence à étudier ça, on voit que ça s'insère dans une approche globale du monde, donc ça devient une idéologie, en fait, plus totalitaire, plus globale qu'on ne pense, quoi. C'est pas purement thérapeutique, ça s'insère vraiment dans un corpus idéologique dont il est difficile d'extirper les personnes. Et c'est des débats qui sont un peu. Ils sont pas évidents parce qu'à la fois il y a le droit du patient qui est absolu, depuis 2003, je crois, ou 2002. Donc la personne peut refuser tout traitement.
C'est ça.
Et de l'autre côté, il y a la santé publique qui souhaite que la population dans sa globalité soit vaccinée pour le recul de maladies terribles comme la polio. Et donc ce sont deux logiques différentes, une logique individuelle et une logique collective qui s'affrontent. Devant les tribunaux d'ailleurs, en Belgique et en France, et qu'on peut comprendre, mais voilà, c'est pas un débat facile. C'est pas un débat facile. Nous, il nous intéresse plus dans ses caractéristiques plus idéologiques, évidemment, parce que si on en reste au thérapeutique, ça c'est plus le SPF Santé qui en discute, ou l'Ordre des médecins, ou l'ONE, ou je ne sais pas. Mais souvent, ça s'insère dans des théories du complot général, et donc c'est à ce niveau-là que ça nous intéresse, et dans ces extrêmes.
D'accord, très bien.
Voilà.
Ça marche. Ben écoutez, c'est parfait. Merci beaucoup pour votre temps, alors.